Oui, c'est la parole de Dieu que nous voulons étudier ce matin. Avez-vous déjà entendu dans la bouche d'un enfant l'expression « c'est pas juste » Ben, c'est ça. Même un rendu adulte, ça nous arrive encore de le dire. Quand j'étais petit, un de mes deux frères avait l'habitude de le dire quand même assez souvent. Mais je me souviens moi-même de l'avoir dit. Pour quelle raison, normalement, un enfant dit « c'est pas juste » Oui. Parfois, c'est vrai que c'est pas juste. Ouais. Parfois, un enfant peut vivre une injustice. Un des parents a promis quelque chose et il ne tient pas parole. Ou il le punit alors qu'il n'avait pas rien fait de mal. Ou il a des exigences trop élevées. Il demande de faire des choses qu'il n'est pas capable et il a le sentiment que c'est injuste. Ou un des parents a du favoritisme. Il a un chouchou. Donc, ça peut être fondé. Mais des fois, un enfant aussi peut dire c'est pas juste parce qu'il n'a pas ce qu'il désire. Il veut manger des biscuits avant de se coucher. On dit non, ben, c'est pas juste. C'est pas juste parce que, dans le fond, on l'oblige à obéir à certaines règles. Et il souhaiterait être libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il peut aussi penser avoir un sentiment d'injustice s'il n'a pas ce que l'autre a. Les enfants ont cette tendance à vouloir se comparer avec les autres. Quand on est adulte, on fait plus jamais ça. Mais l'autre a quelque chose que nous, on n'a pas, et on a un sentiment d'injustice. Pourquoi moi j'ai un petit salaire tandis que mon voisin a une voiture de luxe, là, deux voitures? Il y a comme une injustice. On a le sentiment d'injustice, mais en réalité, ce n'est pas une injustice. C'est plutôt une frustration dans nos désirs, dans nos passions. Les Israélites, alors qu'ils étaient dans le pays d'Égypte et qu'ils étaient soumis à un esclavage dur, ils avaient vécu ce qui est une vraie injustice, sous plusieurs formes. Là, ils étaient soumis à des travaux très pénibles. Même le pharaon avait usé de stratégies là, pour faire mourir les bébés dès la naissance et ça ne fonctionnait pas assez. Puis là, il a fait un grand génocide. Ils étaient méprisés comme s'ils ne valaient rien. À plusieurs reprises, pendant qu'il négociait avec Moïse, il leur a promis qu'il les laissait partir et finalement, il n'a pas accompli ses promesses. Il a reculé. Ils ont vécu beaucoup d'injustices. Ils ont été traités de menteurs, de vauriens, de paresseux. Donc, tout ça, c'était vrai, et Dieu a entendu leurs cris et les a libérés. Peu de temps après, ils ont eu à nouveau un sentiment d'injustice, mais là, c'est parce qu'ils n'avaient pas toute la nourriture qu'ils souhaitaient. Puis ils disaient, ah, finalement, on était mieux en Égypte. Mais là, ce n'était pas une bonne raison d'avoir ce sentiment d'injustice-là. Et Dieu les a repris, malgré qu'il les a nourris. Et un peu plus tard, ils arrivent au mont Sinaï et Dieu leur donne sa loi. Et là, ils pouvaient avoir... Les risques étaient très élevés qu'ils aient encore le sentiment d'injustice parce que Dieu les traite comme des enfants. Il leur dit, vous allez faire ça, vous ne ferez pas ça, vous allez vous déplacer quand je vais vous dire de vous déplacer. Et c'est frustrant, là. Je dis, Dieu nous a libérés de l'esclavage pour finalement qu'on soit ses esclaves et ils auraient pu se plaindre. Mais Dieu, c'est pour ça qu'en partant, il a apparu à eux sur le mont Sinaï dans une vision terrible, une manifestation... de tonnerre, de tremblement de terre, ils ont craint l'Éternel. Et pendant qu'il leur donne sa loi, ils ont pas du tout, ils n'osent même pas penser que ça pourrait être injuste. Ça va venir plus tard, mais pour l'instant, ils sont tout oreilles. Ils sont prêts à écouter, et même ils s'engagent qu'ils vont obéir à Dieu. Mais Dieu leur présente ce qu'ils considèrent être la véritable justice. Comment il veut que la justice règne dans son pays, dans son royaume, dans son peuple. Et on va continuer à lire. On avait déjà commencé la semaine passée à étudier les articles de la loi. On va continuer dans Exode, chapitre 21. Donc, Dieu leur a déjà donné les 10 commandements et par la suite, tous les ordonnances qu'il donne, les jugements, ce sont en fait... Il indique au peuple comment appliquer cette loi-là, les 10 commandements, dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines de leur vie. Et on a déjà vu la semaine passée la loi concernant les esclaves, la relation maître-serviteur avec les hommes, les femmes aussi. Et cette semaine, on regarde plutôt la loi sur les coups, les blessures, mais aussi les dommages qu'on peut causer aux autres. Donc, c'est vraiment une loi qui réglemente quelles sont les punitions à infliger lorsqu'il y a tel ou tel mal de commis. C'est un assez long passage, là, on va le lire d'une traite, mais je vais m'arrêter à quelques endroits pour donner des explications ou des commentaires. Donc, Exode 21, à partir du verset 12. Et on va lire jusqu'à Exode 22, verset 14. Donc, Exode 21, 12. « Celui qui frappera un homme mortellement, sera puni de mort. S'il ne lui a pas dressé d'embûche et que Dieu le fait tomber sous sa main, j'établirai pour toi un endroit où il pourra se réfugier. Ici, l'expression que Dieu le fait tomber sous ta main, ça veut dire qu'il est mort à cause des circonstances, un événement. Mais Dieu déclare à l'avance que c'est lui qui est au contrôle de la vie. Si un homme meurt, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu, mais ici, la différence, c'est que ce n'est pas un homme qui a voulu mettre à mort quelqu'un. Il est mort par accident à cause qu'il est dans son interaction avec une personne. Donc, il n'est pas responsable de sa mort. Mais verset 14, « Lorsqu'il agira délibérément contre son prochain pour le tuer par ruse, ou on pourrait dire prémédité, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Lorsque des hommes se disputeront et que l'un d'eux frappera son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans que ce dernier meure, mais s'il doit s'aliter, s'il peut ensuite se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison. Lorsqu'un homme frappera son esclave, homme ou femme, avec un bâton, si l'esclave meurt sous sa main, il sera vengé. Ici, le mot vengé est rare dans l'Ancien Testament, mais on comprend que ça veut dire qu'il va être puni de mort. Si un maître a tué son esclave en le frappant, il va être puni de mort. Mais s'il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé car c'est son argent. Ouais, ça c'est un peu difficile, c'est même difficile à traduire, là. Littéralement, c'est écrit « Mais si un jour ou deux, il se tient, il ne sera pas vengé. » Certains interprètent que ça voudrait dire que l'esclave finalement n'est pas mort. Après un jour ou deux, il a survécu, donc là le maître ne sera pas puni. Mais la plupart des commentateurs, des traducteurs voient ici que non, effectivement, il meurt. Mais ce que Dieu dit, dans le fond, c'est que si ça a pris deux jours, mettons, avant qu'il meure, il y a des raisons suffisantes de croire que le maître ne voulait pas le tuer. Qu'il était en train de le corriger, il a peut-être maltraité, mais son intention, ce n'était pas de provoquer la mort. Ou en tout cas, on ne peut pas en être sûr, et il ne sera pas puni. Il n'y aura pas de dédommagement à donner, puisque c'est lui. Il est lui-même privé de son investissement, de son serviteur, et c'était d'une valeur très élevée à l'époque, là. C'est une très grosse perte pour le maître, même ça serait une folie pour lui de se débarrasser d'un serviteur, mais il est déjà suffisamment puni. Lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et la feront accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et on payera sur la vie d'arbitre. Ici, certaines traductions, c'est écrit et qu'ils la heurteront et qu'elle fera une fausse couche. Mais c'est une erreur. Je ne sais pas si vous avez cela dans votre traduction, mais la bonne traduction, c'est qu'elle accouche. Ce n'est pas une fausse couche. Le bébé naît, mais prématurément. Et qu'il n'y a pas d'accident, quand même, celui qui a provoqué cela va devoir payer un dédommagement. Mais s'il y a un accident, ça veut dire si soit le bébé meurt ou la maman meurt, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Lorsqu'un homme frappera l'œil de son esclave, homme ou femme, et lui fera perdre l'œil, il le renverra libre pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le renverra libre pour prix de sa dent. Lorsqu'un bœuf donnera un coup de corne à un homme ou une femme, et qui en meurt, le bœuf sera lapidé et sa viande ne sera pas mangée, et le propriétaire du bœuf sera acquitté. Mais si le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, et qu'on ait averti le propriétaire sans qu'il le surveille, le bœuf sera lapidé, et dans le cas où il ferait mourir un homme ou une femme, et son propriétaire aussi sera puni de mort. Si on impose au propriétaire une indemnité pour rançon de sa vie, il donnera tout ce qui lui sera imposé. Si le bœuf frappe un fils ou une fille, on agira à l'égard de ce principe. Et si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 sicles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Lorsqu'un homme laissera ouverte une citerne, ou lorsqu'un homme creusera une citerne sans la couvrir, s'il y tombe un bœuf ou un âne, le propriétaire de la citerne donnera une compensation en argent au propriétaire de l'animal et aura pour lui l'animal mort. Lorsque le bœuf d'un homme frappera mortellement de ses cornes le bœuf de son prochain, ils vendront le bœuf vivant et se partageront l'argent, et ils partageront aussi le bœuf mort. Mais s'il est reconnu que le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, sans que son propriétaire l'ait surveillé, ce propriétaire donnera en compensation bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort. Maintenant, verset 37, mais si vous lisez dans la Louis II, 1910, c'est le verset 1 du prochain chapitre. Il y a comme un décalage de un verset. Lorsqu'un homme volera un bœuf ou un agneau, s'il l'égorge ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 pièces de petit bétail pour l'agneau. Si le voleur est surpris en cours d'infraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil était levé, on serait coupable de meurtre envers lui. Et il donnera une compensation, c'est-à-dire le voleur, si jamais il n'est pas mort, mais qu'il est surpris, il donnera une compensation, et s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il donnera une compensation au double. Lorsqu'un homme fera du dégât dans le champ ou dans une vigne, et qu'il enverra son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ et le meilleur produit de sa vigne. Lorsqu'un feu éclatera et rencontrera des chardons, si du blé en gerbe ou sur pied, en gerbe ou sur pied, ou bien le champ est consumé, celui qui a causé l'incendie donnera une compensation. Lorsqu'un homme donnera à son prochain de l'argent ou des objets à garder, si on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation au double dans le cas où il serait retrouvé. Et si le voleur n'est pas retrouvé, le maître de la maison s'approchera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « c'est cela », donc il y a des versions différentes d'une même situation. Mais le litige des deux parties ira jusqu'à Dieu, et celui que Dieu condamnera donnera à son prochain une compensation au double. Lorsqu'un homme donnera à garder à son prochain un âne, un bœuf, un agneau ou une bête quelconque qui meurt, ou se casse un membre, ou soit enlevé sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Et le propriétaire de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne donnera pas de compensation. Mais si l'animal a été volé chez lui, il donnera une compensation au propriétaire. Si l'animal a été déchiré, c'est-à-dire a été mis à mort par une bête féroce, Il le produira en témoignage, donc il présentera le cadavre, et il ne donnera pas de compensation pour ce qui a été déchiré. Lorsqu'un homme empruntera à son prochain une bête qui se casse un membre ou qui meurt en l'absence du propriétaire, il donnera une compensation. Si le propriétaire est avec lui, il ne donnera pas de compensation. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Il y a beaucoup de détails dans cette loi, n'est-ce pas? Il y a deux choses qui peuvent nous sauter aux yeux à la lecture de cette loi. Peut-être que vous avez déjà lu plusieurs fois, puis ça paraît moins évident, mais on voit toute la... Premièrement, le témoignage de Dieu et de l'homme. La grande différence qu'il y a entre Dieu et l'homme au niveau de la sainteté ou le niveau moral, le niveau éthique. Dieu se présente comme parfaitement juste. Et même sa loi qu'il donne dévoile son cœur juste, qui ne fait pas d'esprit de parti, de considération de personne. Chacun est soumis à la même loi. Même Moïse, qui est le porte-parole de Dieu pour donner cette loi, s'il enfreint la loi, il va lui-même subir les conséquences. Si Moïse lui-même, s'il avait commis un crime digne de la peine de mort, aurait été mis à mort. Donc, tout le monde est soumis à la même loi. En cela, Dieu montre sa pleine justice, mais sa sainteté aussi. Même si certaines règles sont particulières, il faut comprendre aussi qu'on a un détachement de plusieurs milliers d'années avec la culture de l'époque, dont certains aspects sont peut-être difficiles pour nous à saisir. Mais même rendu en 2018, on peut quand même percevoir toute l'intelligence de Dieu et la grande sagesse. Et ceux qui font des recherches pour découvrir les systèmes de loi, les systèmes légaux qui existaient à l'époque dans d'autres nations, c'est vraiment médiocre en comparaison à la loi que l'Éternel donne au peuple d'Israël, qui est sainte, qui est bonne, qui couvre toutes les situations dans la vie et qui est juste, qui honore la vie humaine. Par exemple, dans tous les autres systèmes de loi, un esclave n'a aucune valeur, il n'est même pas considéré comme une personne. Un maître peut faire ce qu'il veut de l'esclave, le mettre à mort s'il veut. Dans la plupart des systèmes de loi de l'époque, même, je pense que c'est tous, je ne suis pas sûr, mais la femme aussi est considérée de très moindre valeur que l'homme. Ici, la loi de l'Éternel met, dans le fond, devient un sujet de fierté pour le peuple d'Israël aux yeux des autres nations. Donc, le premier constat, c'est que Dieu est parfaitement juste. Mais ce qui saute aux yeux aussi, c'est que Dieu prend la peine de lister toute une liste de crimes qu'Israël va possiblement commettre. Ça met en même temps, ça révèle le cœur méchant de l'homme. C'est comme si, avant de partir de chez moi, je disais à mes deux garçons, maintenant, ils sont rendus assez grands, là, je ne leur dis plus des consignes comme ça, mais si je leur disais, vous n'avez pas le droit de prendre la nourriture dans le placard et la renverser par terre. Vous n'avez pas le droit de vous battre, vous n'avez pas le droit de vous casser des membres. Vous n'avez pas le droit de prendre mes choses et aller les vendre. Vous n'avez pas le droit de casser les fenêtres. Vous n'avez pas le droit de mettre le feu à la maison. Il me dirait, mais voyons, tu penses-tu vraiment qu'on va faire ça? Mais ici, Dieu il est en train de lister des exemples de meurtre, de vol, de dommages intentionnels à la production d'un champ. Toutes des choses méchantes. Il dit, voyons, les Israélites vont-tu vraiment faire de telles choses pour que Dieu prévoie à l'avance les punitions? Bien, malheureusement, oui. Le cœur de l'homme est méchant. Et ça transparaît dans la loi de Dieu. Il y a d'autres lois qui sont amenées qui sont plus positives. Là, c'est des consignes que Dieu donne pour comment le peuple doit agir en telle ou telle circonstance. Mais ici, ces deux paragraphes-là, là, ces deux sections-là, montrent vraiment des sentences qui sont données, des punitions envers des mauvaises actions. Et c'est le cœur de l'homme méchant qui transparaît dans cela. Donc vraiment, on voit que Dieu n'a pas choisi les Israélites parce qu'ils étaient plus saints que les autres peuples. On voit aussi ce qui saute aux yeux, c'est que certaines fautes sont plus graves que d'autres. Pour Dieu, il les considère comme une horreur, une abomination. Et c'est ce qui touche à la personne humaine elle-même, la personne humaine, ou à l'honneur des parents. Et ça faisait partie des 10 commandements même qu'il a donnés. Et quelques-uns méritent la peine de mort, alors que des autres méritent une compensation plus ou moins grande selon la gravité du geste qui a été posé. Mais pourtant, on entend souvent de la bouche des chrétiens, et de ma bouche aussi, que pour Dieu, tous les péchés s'équivalent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une contradiction? En fait, il faut comprendre qu'il y a deux aspects qu'il faut comprendre au niveau du péché. Au niveau de notre statut devant Dieu de saint, tous les péchés s'équivalent. C'est-à-dire qu'on commette la moindre infraction, n'importe quel péché, n'importe quelle infraction à n'importe quel article de sa loi vient entacher notre dossier et on devient avec un dossier criminel. On devient impur. Peu importe la grosseur de la tâche, on est impur. Par exemple, c'est le jour d'un mariage, le marié enfile sa robe blanche. Puis elle a une tache de spaghetti sur la manche. C'est juste une petite tache, là. Mais est-ce qu'on peut dire que sa robe est pure? Toute la robe, dans le fond, elle est devenue impure à cause d'une seule tache. Mais elle ne peut pas porter ça non plus, là. À moins de trouver un moyen pour effacer la tâche. Et on lit dans Jacques, chapitre 2, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui dit « Ne commets pas d'adultère » a aussi dit « Ne commets pas de meurtre. » C'est le même qui a dit cela. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la même loi. En fait, peu importe l'infraction qu'on commet, on est transgresseur. On ne peut pas être à moitié impur. On devient impur, on est totalement impur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu affirme, on lit dans Romains, que tous ont péché, et pas nécessairement ont péché de manière grave, mais tous ont péché, et à cause de cela, tous sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un autre aspect par rapport au péché, c'est qu'il y a quand même une dimension de gravité dans le péché. Il y a des péchés qui sont plus lourds de conséquences, mais il y a des péchés aussi qui mettent Dieu plus en horreur, des fautes qui sont pires. Et certaines sont décrites dans l'Ancien Testament comme étant en horreur à l'Éternel. Et Dieu exigeait que son peuple les juge plus sévèrement. Et s'il ne le faisait pas lui-même, il les avait avertis, « Je vais juger plus sévèrement. » Et le Nouveau Testament nous apprend que même si Dieu n'accomplit pas son jugement implacable pour tous les péchés commis sur la terre, c'est parce qu'il patiente. Mais il va venir un jour où il va appliquer son jugement à la fin des temps. Et son jugement va être plus fort envers ceux qui vont avoir commis des actions plus horribles, plus graves. Même on comprend qu'au niveau du statut de criminel, tous ceux qui ont commis le moindre péché, leur destinée est d'aller en enfer. Mais dans l'enseignement que Jésus donne, il y aura quand même des degrés de punition, de souffrance. Dieu va punir d'une manière juste et en fonction de la gravité des péchés commis. Comme Jésus donne l'exemple dans Marc 12, « Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Dieu a à cœur la protection des veuves, des orphelins. Et ici, on voit même les esclaves. Plus tard, on lira même des étrangers. Et ceux qui commettent des actions méchantes envers eux, Dieu va les venger en quelque sorte. La gravité des péchés ici est soulignée principalement au niveau de la vie humaine. Celui qui cause la mort de son prochain mérite la peine de mort. C'est vie pour vie. Et même s'il provoque la mort de son prochain par négligence, s'il avait un bœuf qui était violent, qui donnait des coups de corne et on l'avait averti, et il ne le surveille pas, puis quelqu'un meurt à cause de cela, il est jugé comme ayant commis un meurtre et c'est la peine de mort. Si quelqu'un a un puits et qu'un animal tombe dedans, il est coupable. J'imagine que si un être humain tombe dans le puits, il va être coupable de négligence aussi. En fait, le principe, c'est que ne pas se préoccuper du sort des autres autour et que ça fait en sorte que quelqu'un meurt, c'est aussi fort que de l'avoir tué soi-même. Dérober un homme aussi, le voler pour le vendre ensuite comme esclave ou pour le garder emprisonné chez soi, en captivité, pour Dieu, c'est une horreur aussi, ça mérite la peine de mort. Lorsqu'on vole un objet à quelqu'un, on le prive de cet objet-là, mais lorsqu'on vole la personne elle-même, on le prive de tout. C'est comme si on lui enlève tout, on lui enlève la liberté, on lui enlève même sa dignité humaine. On le considère comme un objet, en fait. Et faire du commerce, du trafic d'esclaves pour Dieu, c'est une horreur. Porter atteinte à l'honneur des parents aussi. Ça, c'est un peu moins évident pour nous, mais Dieu nous le déclare et on doit croire qu'il a de bonnes raisons pour le faire. Mais porter atteinte à l'honneur des parents, pour lui, c'est aussi grave que le meurtre et ça mérite la peine de mort. Et deux exemples sont donnés, soit frapper son père ou sa mère, pas nécessairement pour provoquer la mort, mais agir avec violence envers ses parents, ou les maudire. Maudire, ça veut dire soit les souhaiter du mal, leur lancer un mauvais sort, ou les mépriser, vraiment dire des choses horribles à leur sujet. Pas un petit manque de respect, le mot est fort, le maudire, c'est vraiment les mépriser, même souhaiter qu'ils soient morts, les renier. Mais ici, lorsque Dieu donne des exemples de peine de mort, il ne faut pas conclure que Dieu disait au peuple d'Israël, « Bon, maintenant, vous avez la liberté d'appliquer la peine de mort comme vous jugez bon, à la légère. » Non, Dieu il considère quand même que c'est quelque chose à prendre très au sérieux et pas à la légère. Et même Dieu se prend la peine de protéger ceux qui pourraient être victimes d'erreurs judiciaires. Ou quelqu'un pourrait manipuler la loi pour faire mettre à mort son prochain qu'il n'aime pas. Et Dieu même déjà prend des... Même si le cœur est tortueux puis peut trouver des failles quand même pour contourner la loi, là. Mais Dieu déjà prévoit certaines choses. Par exemple, s'il n'y a pas de preuve évidente que la personne a tué, il n'est pas mis à mort. Il est comme innocent jusqu'à preuve du contraire. On lit dans Deutéronome, même Deutéronome 17, « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition d'au moins deux ou trois témoins. » Là, ça sous-entend que leur témoignage concorde. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Et s'il y avait une possibilité que ce soit un accident involontaire, mais Dieu prévoyait d'avance un endroit où il pourrait se réfugier et ne pas trouver la mort. Si un maître corrigeait un de ses serviteurs et que celui-ci décédait quelques jours plus tard, mais on ne pouvait pas prouver que le maître voulait le tuer, et il était épargné, même si quelques-uns pouvaient avoir des soupçons. Mais Dieu voulait quand même protéger qu'il n'y ait pas d'erreur judiciaire. Et si un voleur était surpris, et qu'il était, il était surpris comme la main dans le sac, et que l'homme, pour garder ses biens ou pour le repousser, finalement, tuait le voleur, si ça se passait de nuit... Le propriétaire qui avait tué le voleur était acquitté. Parce qu'on pouvait supposer qu'il n'avait pas fait exprès, il ne voulait pas peut-être, il voulait pas nécessairement le tuer. Il avait bénéfice du doute. Mais si c'était en plein jour, là, il n'y avait pas d'excuse, là, il était mis à mort. On n'avait pas le droit de tuer même celui qui avait commis un crime de vol. Sa vie était importante. Donc, on voit que c'est très grave pour Dieu de porter atteinte à la vie humaine, à sa dignité. La vie animale aussi, on voit qu'elle a une valeur, mais elle a une valeur quand même beaucoup moins grande, inférieure. C'est pas populaire aujourd'hui, là. Il y en a qui sont prêts à faire des grandes manifestations pour défendre le droit des animaux. Mais Dieu nous révèle que les êtres humains sont à une place d'honneur et que leur valeur, la vie humaine, est de loin supérieure à la vie animale. Pourquoi cela? Mais Dieu l'a expliqué dès le début de la création, mais il l'a expliqué à Noé aussi après le déluge. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu déclare dans Genèse 9, « Je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal. » Donc, si un animal tue un être humain, Dieu va réclamer le sang de l'homme. « Je le réclamerai à tout animal. Je le réclamerai à chaque homme, la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. » C'est ça la raison de toute la valeur de l'être humain. Il y a seulement l'être humain qui est fait à l'image de Dieu. Homme et femme faits à l'image de Dieu pour être ses représentants. Et ils ont sur la terre la dignité divine. Ils en sont pas souvent dignes, mais ils sont censés être les dignes représentants du Créateur sur la terre. L'honneur des parents était aussi très important pour Dieu. Au point où est-ce que si on déshonorait de manière flagrante les parents, c'était digne de la peine de mort. Pourquoi? Parce qu'un père et une mère représentaient le Créateur qui pourvoit la vie, qui fait multiplier les humains sur la terre. Aux yeux d'un fils ou d'une fille, les parents sont comme les représentants de Dieu qui lui a accordé la vie à travers eux. Les parents représentent Dieu aux yeux d'un fils et d'une fille. Donc, porter atteinte à l'honneur des parents, c'est porter atteinte à l'honneur de Dieu. En ce cas, c'est un principe que Dieu voulait instaurer et qui demeure vrai éternellement. Il s'est même rementionné à nouveau dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu clairement met en valeur la vie humaine et l'honneur des parents. Mais quelqu'un pourrait répliquer, « OK, mais si Dieu attache autant d'importance que cela à la vie humaine et à l'honneur des parents, pourquoi nos parents finissent par subir la honte de vieillir et de mourir? Pourquoi tout homme, finalement, un jour, finit par mourir? Est-ce que Dieu n'est pas en contradiction si vraiment il accorde autant de valeur que cela à l'homme? On meurt tous. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Est-ce que Dieu n'est pas en contradiction? Mais on comprend à la lumière des Écritures que Dieu est parfaitement conscient de cela, de cet état-là, et ce n'est pas une bonne chose. C'est le résultat de notre propre péché. Lorsqu'on a chuté, la mort a été introduite dans le monde en conséquence du péché. Et Dieu est conscient de cela et il en est triste. Mais il est aussi conscient que la vie sur terre, c'est court. Là. Le Nouveau Testament nous révèle de manière plus claire qu'il y a une vie après la mort, une vie après la vie terrestre. Il y a une destinée éternelle. Et le problème qui est beaucoup plus grave que le problème de vieillir et de mourir, c'est que puisque tout homme a péché, tous les hommes, normalement, leur destinée, c'est de passer l'éternité loin de Dieu, dans une condamnation éternelle, en enfer, comme une seconde mort. Mais une mort consciente où on paye le prix des péchés contre qui on les a commis. Même pour Dieu, la simple annihilation, comment on dit ça? Annihilation, oui. Si Dieu faisait simplement nous faire disparaître, si après la mort sur la terre, on cessait de vivre, ça voudrait dire que Dieu n'a pas plus de valeur, par exemple, que quelqu'un qu'on aurait tué. Les péchés qu'on aurait commis contre Dieu, on les paierait de notre vie. Mais si on tue un homme, on paye de notre vie, en tout cas à l'époque. Ou si on déshonore les parents, on paye de notre vie. En tout cas, c'est un peu compliqué ce que je vous dis là, mais supposons que je tue un animal. Je ne suis pas coupable d'une peine de mort parce que j'ai tué un animal, parce que la valeur d'un animal est moindre. Si je tue un être humain, oh là, je suis sujet à peine de mort. Mais si je prends l'ensemble des péchés que j'ai faits contre Dieu, la peine est beaucoup plus grande que la simple mort terrestre. Là. C'est pour ça que Dieu dit que la peine encourue, c'est une mort, une souffrance éternelle, puisque la valeur de Dieu, elle est plus qu'un animal, elle est plus qu'un être humain, elle est infinie. Donc, la peine encourue doit être infinie. On n'a pas le choix. Mais Dieu aime sa créature, puis il est venu sous forme humaine, il s'est abaissé à devenir un homme dans un monde corrompu pour subir une peine lui-même de valeur infinie. Puisque Jésus, il n'était pas seulement un homme, il était Dieu, lui-même venu sur terre. Donc Jésus, lorsqu'il était, on l'a appelé tantôt la parole devenue faite chair, tuer Jésus, c'était commettre un crime envers un être qui avait une valeur infinie, infiniment supérieure aux hommes. C'était Dieu qui a été cloué sur la croix. Donc, ce sacrifice-là compense, en fait, pour toutes les offenses qu'on aurait causées au Dieu infini. C'est seulement parce que Jésus est Dieu que son sacrifice peut changer quoi que ce soit. Le sacrifice d'un être humain vaut la vie d'un homme. Mais le sacrifice de Jésus, wow, vaut une valeur infinie dont peut couvrir tous les péchés, toutes les fautes commises envers Dieu. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort, pour que tu n'aies pas à subir cette condamnation éternelle, mais ça veut dire que tout le poids de tes péchés a été mis sur lui et que lorsqu'il est mort à la croix, il t'a complètement nettoyé. Il n'y a plus la moindre tache sur ta robe de mariée. Complètement blanche. Et pour cela, tu dois y croire sincèrement. Et si tu y crois sincèrement, tu vas rechercher dorénavant à garder la robe blanche. Tu vas rechercher la justice. Et Dieu poursuit ici dans les articles de loi qu'il donne en montrant que ce qu'il veut pour son peuple, qu'il a récemment racheté la servitude en Égypte, qu'il a déclaré comme étant son peuple, son bien, ce qu'il veut pour son peuple, c'est qu'il soit saint. Il dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, qui allez vivre dans un... » Vous allez former un royaume où la justice va régner. La justice dans le pays d'Israël, une paix. Et la loi servait à cela. La loi servait à ce que la justice règne dans le pays, qu'ils vivent en cohérence avec le fait qu'ils ont été pardonnés par Dieu, ils ont été rachetés. Mais on sait que la loi ne pouvait pas changer le cœur humain. Le cœur demeure mauvais. Et c'était inévitable que le peuple d'Israël allait tomber. Et on le voit dans l'histoire, à partir du moment du mont Sinaï où ils ont reçu la loi, jusqu'à la venue de Jésus, il n'y a eu que de rares moments où est-ce qu'on peut voir le peuple qui était une lumière parmi les nations. Et on pouvait voir que ce peuple-là est vraiment le peuple de Dieu. Ça n'a pas été long qu'ils ont sombré dans toutes sortes de péchés. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils n'ont pas été fidèles parce que leur cœur n'était pas transformé. La loi qu'ils avaient, elle était bonne, parfaite. Et même celui qui marche par la foi, en suivant la loi, pouvait avoir une vie sainte et même trouver le salut. Mais parce que le cœur était mauvais, c'était même impossible. Et c'est pour ça que Dieu avait prévu que venir lui-même, en tant qu'homme, pour donner un nouveau cœur. Jésus, lorsqu'il est venu mourir pour nous, il est aussi ressuscité pour nous emmener avec lui. Il vient habiter dans notre cœur pour transformer notre cœur, le changer d'un cœur dur à un cœur de chair, un cœur capable d'apprécier la loi de Dieu et de vouloir même lui obéir. Et de tendre vers le royaume céleste, le royaume qui sera instauré sur la nouvelle terre, un royaume où il y aura de la justice en tout temps. Dieu n'aura pas besoin de donner une loi pour prévoir tous les cas d'infraction. Il n'y en aura pas d'infraction. Il n'y aura pas besoin de dire, si vous faites ceci, ça va être peine de mort. Si vous faites ceci, mais vous allez, ça va être œil pour œil, dent pour dent. En fait, ça va être la justice. Il n'y aura plus d'infraction. Présentement, Jésus permet en nous que ce royaume soit déjà instauré, mais il l'est dans l'Église, en progression. On est comme à cheval entre deux, là. On a encore un cœur qui est sujet à retomber dans nos anciens patterns, notre ancien style de vie, notre ancienne nature. Mais en même temps, on est progressivement transformé, de progrès en progrès. Par le Saint-Esprit, notre intelligence est renouvelée pour ressembler de plus en plus à ce qu'on va être pour l'éternité. Un royaume de justice. Comme dit Jean dans ses épîtres, un chrétien, ça ne pêche pas. C'est ce qu'on devrait être. Un chrétien, ça ne pêche pas. Et malheureusement, un chrétien, ça pêche encore. Et on doit l'avouer. Mais le Saint-Esprit en nous transforme. Nous ne sommes pas encore à 100% justes, mais notre conscience est renouvelée. On a un discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal. On le voit dans la loi ici qu'on a lu tantôt. Personne ne devrait chercher à faire du mal à son prochain, à provoquer des dommages à l'autre. Ça peut être par haine, par rivalité, ou parce qu'on a l'impression que ce n'est pas juste, puis on veut rétablir la justice. On va y en enlever un petit peu de ses biens, on va rétablir l'équilibre. On veut se faire justice soi-même ou se venger. Mais Dieu dénonce toute action pour faire du mal à son prochain, à sa personne, à ses biens, à ses animaux, même à ses productions agricoles. Toute fraude pour manipuler, la malhonnêteté. C'était vrai à l'époque et c'est encore vrai aujourd'hui. L'Église devrait être un milieu qui se... Comment on dit ça? Qui est différent du reste du monde, là, qui se distingue. Merci. Oui, il y a peut-être beaucoup d'organismes sur la planète où est-ce qu'on essaie d'instaurer de la justice ou certains régimes politiques, mais l'Église doit être l'exemple, doit être le milieu où est-ce que la justice est démontrée. Où est-ce qu'entre frères, on ne veut pas se faire le moindre mal, on ne souhaite pas le moindre mal à l'un de nos frères, on cherche leur bien même. Jésus instaure même que dans les valeurs chrétiennes, c'est pas seulement de s'efforcer de ne pas faire du mal à son frère, mais c'est même de vouloir faire du bien. De considérer même le bien de l'autre comme étant préférable même à notre propre bien. Considérer nos frères et sœurs comme étant dignes de plus d'honneur que nous-mêmes. C'est vraiment renversé par rapport à la nature corrompue de notre cœur. À l'époque aussi, il ne devait pas y avoir aucune distinction de personne. Une vie, c'est une vie. Pas de distinction entre riche et pauvre. Même on lit plus loin dans d'autres paragraphes que Dieu dit, tu ne vas pas même donner un traitement de faveur aux pauvres lorsqu'il y aura un procès. Certains pourraient donner un traitement de faveur aux riches parce qu'ils reçoivent un pot de vin, mais à cause de notre cœur sensible, on pourrait même traiter favorablement un pauvre. Mais Dieu dit, non, la justice, c'est pour tout le monde. De la même manière pour tous, sans distinction. Lorsqu'il dit qu'on doit traiter les parents avec honneur, c'est autant le père que la mère, homme et femme. La même valeur aux yeux de Dieu. L'esclave même doit être traité avec respect en tant que personne. Sinon, si le maître, parce qu'il le maltraite, il perd une dent, il est obligé de le laisser libre. Ou même s'il n'y a pas d'infraction vraiment listée, mais si l'esclave sent qu'il est maltraité puis qu'il s'enfuit, Dieu dit même dans Deutéronome 23, « Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi, de chez son maître. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras pas. Ce que Jésus dit, en fait, c'est si le maître veut garder son esclave, il faut qu'il soit bon envers lui. Sinon, s'il sauve ceux qui vont l'accueillir, le garde. En fait, il va habiter comme libre parmi eux. Donc, même la vie de l'esclave, même si on a de la misère à accepter l'état de l'esclavage, là, le concept même, mais pour Dieu, la vie de l'esclave est précieuse et il a une dignité humaine. Il est à l'image de Dieu lui aussi. Et le principe de ne pas faire de considération de personne, de favoritisme, c'est encore vrai dans l'Église. C'est même encore plus vrai. C'est même poussé jusqu'à aucune distinction d'aucune sorte, et même raciale. À l'époque, il y avait quand même un honneur mis au fait que tu étais israélite. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, peu importe la nation, toute personne qui se présente dans l'Église, peu importe son bagage de péché qu'elle a commis dans le passé même, on traite chacun des frères avec le même égard. Aucun favoritisme. Chacun, tu dois le considérer comme un enfant de Dieu, un enfant du Dieu souverain créateur. Un autre principe qu'on voit ici dans ces passages, c'est le principe de œil pour œil, dent pour dent, qui est parfois appelé la loi du talion, qui a trouvé des échos aussi dans d'autres systèmes judiciaires. Et parfois, c'est vu que d'un mauvais œil, c'est... sans faire de jeu de mots, mais c'est vu comme étant mauvais. Mais pour Dieu, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que pour chaque crime, la compensation doit être équivalente. Tu ne dois pas chercher, lorsque tu as été offensé ou blessé ou brimé dans tes droits, chercher à te venger en faisant à ton tour du mal. La seule chose qui est acceptable, c'est une compensation pour le mal qui t'a été commis. Et tu ne dois pas, toi, à ton tour, faire du mal à l'autre. Nous, notre tendance humaine, c'est « Ah, tu m'as pilé sur le pied, je vais te piler sur le pied, mais en même temps, je vais te donner un coup de poing. » L'autre va dire « Ah, tu m'as pilé sur le pied, tu m'as donné un coup de poing, moi aussi, je vais te donner un coup de poing, mais en plus, je vais te mordre une oreille. » Puis là, ça s'enchaîne comme ça, puis chacun sent qu'il a le droit de le faire. Dieu ne permet pas cela. Œil pour œil, dent pour dent, c'est tout. En fait, ce qu'il dit, c'est un principe que ne pas chercher la vengeance ou de chercher soi-même à faire du mal aux autres, tout laisser ça à Dieu. C'est seulement la compensation qui est acceptable. Jésus nous enseigne une autre chose aussi. Jésus nous dit que tout cela, c'est bon. C'est la justice. Jésus n'a pas remis en question la justice de cette loi. Pour lui, elle est bonne. Mais il va plus loin que ça. Dans le fond, il dit que nous devrions être prêts, enclins, à pardonner, à annuler cette dette. Dans Matthieu 5, on lit, « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister à celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. » Jésus n'est pas en train de dire que ce qu'il a commis ne mérite pas une compensation. Mais ce qu'il dit, il s'adresse à celui qui a été victime de ce mal-là, c'est-à-dire renonce à cela. Pour l'amour de ton frère. Jésus, lorsqu'il dit ça, il est en train d'instaurer, en fait, les principes qui doivent être vécus dans l'Église. Ton frère t'a fait du mal, oui, ce serait juste qu'il paye pour l'offense qu'il t'a fait. C'est vrai que ce serait juste. Mais au nom de l'amour pour ton frère, au nom de l'amour de Dieu, pardonne-lui. 1 Corinthiens 6, verset 7 dit, « Pour vous, c'est déjà une défaite. » C'est loin d'être une victoire. C'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne pas vous laisser dépouiller? Ça ne veut pas dire que la rétribution n'est pas bonne, mais ce n'est pas celui qui a été victime du mal à chercher qu'il y ait rétribution. C'est plutôt celui qui a causé le mal. En tant que chrétien, on a fait du mal à notre frère. C'est celui qui a fait du mal, celui qui avoue son péché, qui se repent, qui doit chercher à réparer le tort qu'il a fait. L'autre, lui, doit chercher le pardon. Je ne sais pas qui va tirer le plus fort sur son bas de la couverte, mais dans le fond, ce n'est pas à nous à chercher à se faire justice. C'est si on a commis un mal envers les autres, c'est à nous à vouloir rétribuer. On a volé, on rend. On a déshonoré en parlant mal, on honore. On rectifie le mal qu'on a fait autant que c'est possible. Un dernier principe, on va terminer là-dessus. On voit la responsabilité qui est attribuée à chaque personne, elle doit être prise au sérieux. On doit prendre des responsabilités au sérieux. On l'a déjà vu sur l'aspect de la négligence. On est chacun responsable, en fait, du bien de ceux qui nous entourent. Si par négligence, on provoque une blessure ou une mort, on en est responsable. Il dit aussi, à celui qui est en position d'autorité, comme par exemple le maître d'un esclave, le maître avait plus de responsabilités. On voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont ordonnées à lui dans son comportement. Celui qui a des biens ou des animaux qui lui ont été confiés. Quelqu'un part en voyage, lui les confie ses biens et lui confie une responsabilité. Et devant Dieu, il doit prendre ses responsabilités. Il ne peut pas dire, ben, écoute, ce n'était pas mon animal, là. Il aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Non, tu as accepté le bien qui t'a été confié, la responsabilité va avec. C'est sur la base de ce même principe-là, en fait, qu'il y a beaucoup de responsabilités dans l'Église qui nous sont confiées et Dieu veut qu'on les prenne avec sérieux. Par exemple, les pasteurs doivent prendre soin du troupeau que le Seigneur leur a confié. L'image est même la même, là. C'est comme si le Seigneur et Jésus est parti. Pendant qu'il est parti au ciel, il confie au pasteur le troupeau, son troupeau. C'est lui qui est propriétaire. Il le confie aux pasteurs, aux anciens de l'Église. S'ils n'en prennent pas soin, ils sont coupables. C'est pour ça qu'ils vont être jugés dans un sens plus sévèrement. Un père de famille est responsable de prendre soin du petit troupeau qu'il a à la maison, que Dieu lui a confié. Chaque chrétien se voit confier des dons par le Seigneur, des capacités. Il a la responsabilité de les mettre en action, de servir ses frères et sœurs. L'Église même, on a un devoir collectif. Dieu nous a confié le ministère de la propagation de la parole de Dieu, de l'évangélisation. Il nous l'a confié, cette tâche-là. Il ne l'a pas confié à personne d'autre. Ce n'est pas les anges qui vont évangéliser le monde. C'est les chrétiens, c'est l'Église. Si l'Église ne le fait pas, elle manque à ses devoirs. Donc, Dieu tient responsable toute personne qui s'est vue confier quelque chose, mais qui n'accomplit pas. Mais dans tout cela, on peut voir le modèle de Jésus-Christ, qui a parfaitement accompli lui-même toute la loi prescrite par Dieu. Et que dans tout ce qu'il nous commande de faire, même si ça semble immense, il l'a lui-même fait. On peut suivre Jésus dans son modèle d'amour, de sacrifice. Lui-même, toutes les offenses qu'il a subies, il a dit au Père, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas cherché à se faire justice lui-même. Au contraire, il s'est offert pour le bien des autres. C'est l'attitude qu'il nous demande. Et Jésus n'est pas injuste en nous plaçant chacun dans la situation où on se trouve, où on n'a pas tout ce qu'on désirait, où on vit encore dans un monde corrompu. On a la vie éternelle, mais parfois on l'oublie, on ne voit pas, on ne ressent pas qu'on l'a. Et ce n'est pas une injustice. Même lorsque l'Église est placée dans un contexte où elle-même elle est victime d'injustice, où elle est persécutée, Jésus est juste dans cela. Il promet une récompense qui va largement compenser toutes les injustices qu'on aura vécues. En plus même de la vie éternelle qui nous attend. Il n'est pas injuste non plus en nous demandant d'obéir. Il faut rejeter le diable qui nous chuchote à l'oreille que suivre les commandements de Jésus, c'est injuste parce qu'on devrait être libre. Jésus nous dit, si vous suivez mes commandements, c'est là que vous allez être libre. La vraie liberté, c'est si vous sortez de vos chaînes d'idolâtrie, de vos chaînes de vouloir assouvir tous vos désirs, vos passions mauvaises, le fait que vous n'êtes pas capable de vous empêcher de faire le mal, si vous obéissez à mes commandements, si vous laissez toute place au Saint-Esprit dans votre cœur pour qu'il vous transforme, là, enfin, vous allez être parfaitement libre. C'est-à-dire que vous allez finir par agir vraiment selon ce que vous voulez. Même le sentiment d'injustice va disparaître. Lorsqu'on est vraiment transformé à l'image de Jésus, ce qu'on désire faire, c'est vraiment ce que Jésus nous demande de faire. Il n'y a même plus de contradiction. On veut obéir au Seigneur. Et Jésus promet qu'il fait ce travail-là dans notre cœur. Si on lui ouvre la porte et qu'on le laisse travailler. Tantôt, on a honoré Dieu qui nous a laissé sa parole. C'est l'instrument entre les mains du Saint-Esprit pour transformer notre cœur. les articles de loi qu'on vient de lire, mais toutes les Écritures, tout est utile pour nous transformer, corriger notre manière de penser, nous rendre justes, nous apprendre à aimer ce que Dieu aime et à détester ce que Dieu n'aime pas, à devenir conforme à l'image de son Fils, ressembler à Jésus-Christ. Terminons dans la prière. Merci Seigneur Dieu pour ta loi qui est pure, qui est sainte. Merci surtout pour ta grâce envers nous. À la lumière de ta parole, nous comprenons à quel point nous t'avons offensé. Nous avons manqué de respect au Dieu créateur. Et nous sommes forcés d'avouer que nous méritons l'enfer. Nous méritons une punition, une peine, une souffrance éternelle. Mais gloire à ton nom, gloire à ton amour et ta miséricorde d'être mort à notre place, d'avoir donné ton Fils Jésus qu'il soit crucifié pour que nous n'ayons pas à mourir d'une mort éternelle. Sois loué pour ta grâce envers nous. Et maintenant, nous t'implorons sur la base de cette même grâce. Nous faisons appel à cette même grâce pour nous transformer, nous rendre ressemblants à ton Fils Jésus, nous détacher de notre égoïsme, de notre orgueil et de notre méchanceté pour être bons, justes, des faiseurs de paix, des dignes représentants de Dieu sur la terre. C'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes ces choses. Amen.